CFM Villefranche, le mag.
Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le mag, oui, édition de ce jeudi 18 novembre et on va parler du retour des conférences parentalité à Villefranche-de-Rouergue. Et la première du cycle est d'ailleurs programmée ce soir et aura pour thème les ados et les écrans. Et je joindrai par les petits fils du téléphone en deuxième partie d'édition Wilfried Gontran qui est psychanalyste et qui a été désigné par les organisateurs pour animer cette rencontre. Contre les organisateurs, c'est les associations familiales laïques et la FCPE à Véron. C'est d'ailleurs dans les locaux de la FCPE à 20h30 ce soir. Entrée libre et gratuite. Avant toute chose, les jeudis, tour d'horizon des titres dans l'actualité à l'occasion de la parution du jour de notre hebdomadaire Le Villefranchois, revue de titres présentée par Éric Lachand. Bonjour Éric.
Bonjour David.
Chef d'édition, journaliste au Villefranchois. On débute avec l'info de la semaine.
Oui, une information qui n'est pas des plus gaies puisqu'il s'agit de licenciements. On a appris en milieu de semaine dernière, par décision d'un conseil d'administration extraordinaire, que l'entreprise, le groupe Système U, qui est détenteur des parts de la société qui est une ancienne Scope, hein, qui s'appelait la Scope Bâche, avait décidé donc de mettre un terme à cette activité, soit 28 licenciements qui sont annoncés pour cette fin d'année. C'est le point final d'une histoire qui a démarré dans les années 50, 60, qui avait connu son heure de gloire dans les années 80-90, puisque l'entreprise Bâche, à l'époque, employait plusieurs centaines de salariés. On se souvient qu'en 1995, le groupe avait commencé à avoir des difficultés suite à son rachat par l'entreprise Disco Sud-Ouest. Il y avait eu déjà un premier plan social très important qui avait permis de sauver une cinquantaine d'emplois qui s'étaient regroupés dans le cadre d'une SCOP, hein, c'est-à-dire une forme de coopérative d'employés. Et ça avait duré jusqu'en 2011, date à laquelle bien le groupe donc Système U a racheté l'entreprise et l'a rebaptisé UPSO. Cette entreprise est spécialisée dans la livraison de toutes les marchandises pour les entreprises, les commerces de proximité. Alors c'est une décision qui passe très mal au niveau des salariés, bien sûr, parce que ça intervient alors que l'entreprise a connu un très très fort chiffre d'affaires, une très forte augmentation liée notamment à la Covid, hein, qui avait ramené les gens vers de plus de proximité au niveau commercial. Et donc là, il n'y a pas vraiment de perte financière dans cette histoire, et c'est juste de la réorganisation, hein, au sein du groupe, sauf que les entreprises, les commerces locaux vont être livrés, approvisionnés depuis Avignon, depuis Bordeaux, depuis Agen, donc c'est à contresens de tout ce qui est prôné dans le cadre de la réduction des transports. Voilà, donc nous avons interrogé le groupe Système U, pour l'instant, ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions.
C'est l'info de la semaine que l'on retrouve en détail dans la parution du jour de notre hebdomadaire Le Villefranchois. La revue de titre à la suite avec la bonne nouvelle de la semaine.
Oui, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Heureusement, on a appris très récemment que l'État a débloqué une enveloppe d'à peu près 21 millions d'euros pour la rénovation du site de Ruye. 21 millions d'euros, c'est presque la moitié de ce qu'il faut pour rénover Ruye, et c'est ce qui va en tout cas être décisif pour le lancement du projet de rénovation du site de Ruye, qui, rappelons-le, comprend un EHPAD, des unités Alzheimer, des soins de suite, de rééducation. Bref, tout ça avait un peu vieilli, même beaucoup, et des nécessités d'importants travaux. Ils vont pouvoir être engagés assez rapidement, puisque là, on en est dans la phase de diagnostic d'avant-travaux. Il va essentiellement consister, ce diagnostic, à voir s'il y a de l'amiante, s'il faut engager des sommes importante pour le désamiantage. Et une fois tout ceci réalisé, on pourra entrer dans la phase opérationnelle. Alors, il y en a pour plusieurs années de travaux. Cela se traduira par, à terme et au bout du bout, par un projet global qui regroupera tous les EHPAD de Villefranchois dont le centre hospitalier à la gestion. Donc, ça veut dire que l'unité des Bosquets, par exemple, va disparaître. Et par contre, il va y avoir, ça c'est une nouvelle qui a été annoncée, mais on en parlera un petit peu plus loin dans cette présentation de titre, ça se traduira par des navettes qui vont faire les liaisons entre rue et le centre-ville pour les résidents qui ont de l'autonomie. Alors là, il y aura peut-être aussi un volet sur la construction ou la réhabilitation de logements un petit peu plus autonomes que ce que l'on connaît actuellement.
C'est la revue titre, l'essentiel de l'actualité, présentée par Éric Lachon, chef d'édition, journaliste au Villefranchois. On poursuit avec le programme de la semaine. Oh, oh, oh.
Alors, le programme des animations qui vont démarrer pour début décembre. D'ores et déjà, la mairie a mis l'accent sur les animations qui vont égayer la Bastide durant toutes les fêtes, en partenariat, bien sûr, avec l'association des commerçants du centre-ville. Alors, il y aura pas mal de choses, vous le verrez, le programme est présenté de manière exhaustive. Il y aura bien sûr des concerts, des projections de films, des contes, des animations de rue. On va avoir bien sûr des concerts du Carillon, avec les fameux Nadalettes, qui sont des espèces de petits chants, de petites pièces musicales qui sont traditionnelles ici, c'est d'Occitan. Et donc voilà, on va essayer d'avoir, je crois, une fête de Noël et de fin d'année qui s'inscrivent dans une dynamique au sein de la Bastide. Bon, tout ceci est présenté dans notre édition.
On poursuit avec les portraits de la semaine.
Alors, les portraits, ce sont ceux des candidats, enfin des personnes qui sont retenues dans le cadre de notre événement qui s'appelle les Villefranchois dans la lumière. On essaie tous les ans, alors malheureusement l'an dernier on n'avait pas pu pour cause de Covid, mais on essaie tous les ans de mettre à l'honneur des gens qui, de par leur parcours, nous paraissent mériter un coup de projecteur. Alors, ce sont souvent des gens qui sont soit dans le bénévolat au niveau associatif, soit des personnes qui, par leurs exploits, ont mérité un coup de projecteur particulier cette année. Et on commence cette série de portraits avec trois portraits. Ceux de Jules et Max Dumas, qui sont deux lanceurs de poids, deux jeunes lanceurs de poids, qui sont des performeurs, vous le verrez dans ce portrait. Il y a aussi celui de Jean Battu, bon, très connu à Villefranche.
L'outil en main.
L'outil en main, mais aussi à la Team 12 et dans d'autres associations. Il est un infatigable coureur de fond en ce qui concerne le bénévolat. Et puis il y a également, alors là, c'est lui qui les bat tous en termes de longévité et d'engagement, c'est Jacques Weiss, celui qui a fondé le cyclosport Villefranchois et qui a fêté ses 50 ans dans notre édition de rentrée. Là. Et donc Jacques Weiss, on fait son portrait, le portrait d'un grand cycliste et d'un personnage attachant et tout à fait intéressant. Voilà donc les trois premiers portraits de notre série qui va courir jusqu'à la mi-décembre. Et puis après la mi-décembre, on entrera dans la phase de la réception des personnages et des personnes qui ont été sélectionnées pour leur remettre le trophée, le fameux Don Quichotte qui récompense l'engagement associatif et sportif en pays villefranchois.
Allez, on poursuit, on referme cette revue de titres avec la décision de la semaine.
La décision de la semaine est une décision municipale. Le conseil municipal de Villefranche se réunissait lundi soir pour examiner un certain nombre de points, dont la fameuse création d'un service de transport en commun. Hein. Ça va prendre la forme de trois lignes de bus. L'une qui va desservir le centre-ville, les Granges et Ruilles, on en parlait tout à l'heure. Une autre qui va faire la gare vers Ruilles, aussi, une autre rotation. Et enfin, la troisième qui fera la gare jusqu'au Giroux. C'est un circuit de 11,5 km. Et voilà, donc avec deux rotations par jour. Voilà, il y aura pas mal de possibilités de se déplacer. Et cela gratuitement, faut-il le préciser quand même. C'est quand très, très important, par les temps qui courent surtout, hein, parce que les transports, ça coûte de plus en plus cher. Se déplacer en voiture individuelle, ça a un coût de plus en plus important avec l'augmentation des carburants. Voilà, donc on est sur une bonne voie, semble-t-il. D'autant que ces transports municipaux, gratuits, vont se doubler de travaux importants pour la construction d'une voie verte, une bande cyclable, dont on annonce la réalisation très prochaine. Donc voilà, ça sera bien sûr quelque chose qui va permettre de se déplacer à vélo électrique. Voilà, aussi, on est dans une démarche écologique, économique et vertueuse.
Des titres présentés aujourd'hui avec d'autres développés dans la parution du jour. La suite du programme, une rapide musique et j'accueille par les petits fils du téléphone Wilfried Gontran qui est psychanalyste, enseignant en psychologie à l'université Toulouse Jean Jaurès et on le retrouvera ce soir à l'animation de cette conférence « Les ados et les écrans ». Réseaux sociaux, harcèlement. Aujourd'hui, journée nationale de lutte contre les violences et le harcèlement scolaire. Il en glissera un mot très certainement dans son intervention à venir. Merci Eric, excellente journée. À très bientôt, à la semaine prochaine.
Au revoir.
CFM. CFM. CFM Radio. CFM Villefranche. CFM Villefranche, le mag.
Une récente étude statistique fait état de 11 écrans par foyer. Les écrans sont partout et occupent une part non négligeable de temps pour nos adolescents, près de 35 heures par semaine en moyenne. Bonjour Wilfried de Gontran.
Bonjour.
Wilfried Gontran, vous êtes psychanalyste, formateur, enseignant de psychologie à l'université Jean Jaurès de Toulouse et vous allez animer ce soir à 20h30 sur invitation de la Fédération départementale des conseils de parents d'élèves et l'association familiale laïque une conférence débat intitulée « Les ados et les écrans, réseaux sociaux, harcèlement, etc. » Une conférence pour éclairer, pour donner peut-être des clés aux parents, des recommandations sans diaboliser, hein, je l'imagine.
Sans diaboliser, bien sûr, oui. Il faudra prendre à la mesure de cet investissement, voire surinvestissement des écrans, qui ne sont d'ailleurs pas que chez les enfants et les adolescents, mais aussi chez les adultes. Et vous faites bien, c'est intéressant d'employer ce terme de diaboliser, parce qu'il ne s'agit surtout pas de dire que les écrans, de statuer sur le fait de savoir si c'est quelque chose de bon ou de mauvais. Hein, de toute façon, c'est un état de fait, c'est un objet dont on va essayer de savoir comment il faut le réguler. Voilà, le réguler. Et aussi ce que ces écrans nous empêchent de faire aussi. C'est pas que ce qu'ils ajoutent dans nos vies, mais aussi ce qu'ils viennent soustraire.
Ah bah oui, 35 voilà. Heures par semaine en moyenne, ça fait 5 heures en moyenne par jour sur un écran. Ça laisse peu de temps pour faire des vraies choses et c'est une non-vie. Hein.
Oui, alors c'est un peu ça que j'essayais d'amener. C'est-à-dire que pendant que les enfants, les adolescents passent leur temps sur les écrans, qu'est-ce qu'ils ne font pas ? Voilà, qu'est-ce qu'ils ne font pas et quelles sont les conséquences de ce qu'ils ne font pas. Voilà, donc ça c'est un petit peu la face cachée de tout ce qu'on dit autour des écrans, puisqu'on s'intéresse beaucoup à ce qu'ils regardent, à ce qui les motive. Et effectivement, moi je mettrai l'accent dans cette conférence, dans cette intervention, sur ce qui finalement passe à la trappe avec ce surinvestissement.
Alors il y a le temps, mais il y a le contenu et les dérives aussi. Hein. Vous interviendrez là aujourd'hui, jeudi 18 novembre, journée nationale, non au harcèlement. Vous en parlerez très certainement ce soir. En tant que psychanalyste, quel constat vous faites de l'usage du numérique par nos adolescents et quels en sont les effets aujourd'hui ?
Ben, le constat, alors il faudra distinguer, faire quelques distinctions sur l'utilisation, concernant l'utilisation chez les enfants et chez les adolescents. Je crois qu'il faut pas tout mélanger aussi. Voilà, les fonctions sont différentes. Et notamment à l'adolescence, pour ce qui concerne l'adolescence, je parlerai de ce que les écrans viennent comme être utilisés comme dans un processus d'évitement du processus adolescent qui est quand même le moment de l'ouverture sur la vie amoureuse, sur l'autre dans une autre dimension. Voilà, donc les écrans aussi ont une fonction. Il y a plusieurs fonctions des écrans. Et je crois que ce serait dommageable aussi de n'avoir qu'une considération. Sur ces questions-là.
Oui, il y a des règles, hein, 3, 6, 9, 12, je crois, qui correspondent au développement naturel de l'enfant. Mais là, on est avant l'adolescence, et c'est peut-être dès ces premiers instants que ça se joue aussi, et puis c'est l'exemplarité familiale par rapport à l'usage des écrans. Espace d'expérimentation sociale aussi pour nos ados, notamment les réseaux sociaux.
Oui, alors c'est sur ça aussi que je voulais venir en parlant de l'adolescent, en commençant en parlant de l'adolescent, c'est que ces réseaux sociaux sont-ils si sociaux que ça ? C'est-à-dire qu'on a choisi de les appeler des réseaux sociaux, mais ça aussi je voudrais problématiser ça, C'est-à-dire, est-ce qu'on se rencontre vraiment dans les réseaux sociaux? Voilà. Et il y a tout ce déchaînement aussi, toute cette part de on parlait du harcèlement, il y a quelque chose aussi qui est permis par le dispositif du réseau social. Bon, je rappelle que sur un réseau social, nous ne sommes pas en présence des autres. Voilà. Alors ça sera peut-être quelque chose à débattre. Beaucoup risquent de me répondre que si, nous sommes bien en relation avec les autres. Mais là, en tant que psychanalyste, j'aurais à rappeler un certain nombre de points pour peut-être venir questionner la nature véritablement relationnelle de ce qui se passe dans un réseau social. Mmh. Voilà.
C'est pour combler l'ennui, hein, souvent, c'est ce que disent les ados. Donc, on a peut-être une responsabilité en tant que parents en leur faisant des propositions alternatives.
Absolument. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas devant les écrans? Et l'ennui, effectivement, comment on supporte l'ennui? Je trouve intéressant que vous introduisiez ce terme, et il faudra en parler, de la question de l'ennui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une société dans laquelle l'ennui a véritablement sa place. Voilà, on doit faire quelque chose à chaque minute de sa vie, d'ailleurs en rendre compte. Il s'agit aussi d'en rendre compte. Donc comment tout ça continue à prendre sa place, alors que effectivement l'ennui fait partie, fait absolument partie de ce qui est à vivre comme expérience pour se construire psychiquement et devenir un adulte sereinement.
J'évoquais en introduction 11 écrans par foyer. C'est donc une récente étude statistique qui fait état de cet équipement. On ne peut pas exiger d'un ado qu'il laisse tomber ses écrans si nous, parents, on les utilise en masse aussi.
Oui, alors là, effectivement, on arrive à la génération déjà des parents écrans. Donc, voilà, comment être accompagné? Peut-être que là, il faut imaginer des nouveaux dispositifs. C'est vrai que ça m'était arrivé lors d'une conférence que je faisais sur le virtuel, d'être interpellé par un parent qui disait effectivement, mais moi, comment je vais jouer avec mon enfant alors que moi-même, je n'ai appris à jouer qu'aux jeux vidéo. Voilà, donc ça, c'est une vraie question, et évidemment, je n'ai pas la réponse, mais vous voyez bien que c'est un champ d'expérimentation, il y a des dispositifs à créer, mais c'était tout à fait légitime à ce parent-là d'intervenir comme ça et de poser un véritable problème.
Mettre en place
ça voulait dire, pardon, ça voulait dire que ce parent, il avait envie. Il avait envie quand même de peut-être proposer à son enfant autre chose que ce que lui avait eu. Voilà. Et ça, c'est déterminant dans l'affaire.
Mettre en place un jour sans écran, un jour off, voilà, pour toute la famille, ça peut faire partie des solutions à mettre en place à la maison quand on sent qu'il y a un problème en termes de soit de contenu ou de temps passé devant les écrans.
Oh ben j'imagine, j'espère que ça existe, des jours off ou des jours pendant lesquels on essaye de faire du off. Oui, je pense que tout le monde peut le supporter. Dès lors que l'objet n'est pas là. C'est quand même aussi, il y a une part d'objet imaginaire aussi, dans cet objet très réel qu'est le smartphone ou la tablette. Il y a une part imaginaire, on imagine ne pas pouvoir s'en passer, et quand on ne l'a pas, on peut aussi constater que le monde ne s'effondre pas. Voilà. Et effectivement, c'est intéressant de poser cette question parce que les parents peuvent avoir la crainte aussi que les choses se passent mal. Ils puissent ne pas pouvoir s'en passer. Et donc, eux-mêmes avoir une angoisse de cette expérience. Mais je crois pouvoir dire que, voilà. Après, il y a des cas particuliers où certains enfants ne peuvent pas s'en passer. Et là, il y a des choses à examiner aussi au cas par cas. Il y a peut-être des choses particulières aussi chez certains enfants dans le rapport aux écrans. Voilà. Donc, moi, mon souci en tant que psychanalyste, évidemment, c'est, vous l'avez compris, je pense, c'est le cas par cas de ne pas trop forcer vers des considérations générales, et qu'il y a des choses qui peuvent être dites, mais surtout examiner à chaque fois les choses au cas par cas.
Les ados, les écrans, les réseaux sociaux, le harcèlement, il en est question aujourd'hui avec cette journée nationale non au harcèlement. Ce soir à 20h30 dans les locaux de la FCPE et donc une soirée que vous animerez, Wilfried Gontran, une conférence débat aussi avec des questions qui vous seront adressées à la fin de votre intervention. Rendez-vous à la FCPE, 9 chemin du Faubourg Savignac ce soir à 20h30. Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions et à ce soir donc à la FCPE.
Merci à vous.
CFM Villefranche, le MAG.